À 6h48, on part en Israël.
Oui.
Ça, c'est avec vous, Anthony Bélanger, il faut se réveiller, là. Une histoire qui se passe entièrement à l'aéroport.
À l'aéroport international Ben Gourion, pour tout vous dire, la porte d'entrée d'Israël. Et il faut remonter un petit peu en arrière pour comprendre ce que je vais vous raconter. Mm-hmm. Juin 2017, la Cour suprême israélienne rend un jugement historique pour là-bas. Elle explique qu'il est illégal de demander à une femme de changer de place parce qu'un juif orthodoxe refuse de s'asseoir à ses côtés dans l'avion. Ça s'appelle de la discrimination. Point barre. Alors pourquoi ce jugement est-il historique? Eh bien parce que pendant des années, ça s'est pratiqué sur les vols de la compagnie nationale israélienne El Al. En clair, un ultra-orthodoxe pénètre dans l'avion, se rend compte que son voisin est une voisine, impossible pour lui, c'est pas caché.
Ne me dites pas, Anthony, que c'était à la femme de changer de place quand
même. Eh bien si, exactement. Et encore aujourd'hui, malgré ce jugement, en 2011 par exemple, le même type de jugement avait été obtenu pour les bus. Il a fallu 13 condamnations de plus pour que les compagnies de bus israéliennes appliquent la décision de justice. Et c'est une association juive libérale qui mène ce combat. Elle s'appelle l'IRAC. Et pour mieux faire connaître...
L'IRAC avec un C, pas avec un K,
oui,
on précise.
C'est pas la même chose. Non. Pour mieux faire connaître leur dernière victoire, hein, l'IRAC finance une campagne de pub aux abords de l'aéroport Ben Gourion. Histoire que les voyageuses soient bien informées. Décidément... un chat dans la gorge. Avant de décoller, le slogan est clair. Mesdames, prenez place. Et gardez-la, avec en plus un sous-texte, il est illégal de demander à un passager de changer de place en se fondant sur le genre, et le personnel de bord n'a pas à vous forcer à échanger votre place.
Bon, en fait, c'est une guerre culturelle, voire cultuelle. Hein.
Oui, bien sûr, parce que pour le moment, les ultra-orthodoxes israéliens ne sont que 11% de la population, mais à raison de 6 à 7 enfants par femme en moyenne, ils représentent déjà un jeune sur 5 en Israël, et dans 40 ans, un tiers des Israéliens seront issus de leur rang.
Ah oui, c'est aussi une question politique, alors.
Oui, exactement. Et oui, parce que ces ultra-orthodoxes votent en bloc pour des partis ultra-orthodoxes, évidemment. Mmh. Des partis qui pèsent déjà très lourd en politique et qui, logiquement, pèseront encore plus à l'avenir. Du coup, la moindre petite victoire judiciaire, aujourd'hui donc, est un pari sur l'avenir du pays.
Et merci de nous l'avoir signalé, Anthony. Mmh. On part où cette fois-ci pour votre deuxième histoire?
Eh bien, je vais vous faire rêver un peu partout en Europe, pour tout vous dire, puisque je vais vous raconter l'histoire d'un bijou qui a été trouvé en Inde, ramené d'Amérique, offert à une reine d'Espagne, et qui, 300 ans plus tard, s'est vu pour la première fois et mis en vente à Genève. Cette histoire, c'est celle du bleu farnèse, un diamant exceptionnel par sa pureté et sa couleur bleue extrêmement rare, un diamant poire de 6,16 carats et qui a été offert en 1715 pour son mariage à la reine d'Espagne, Elisabeth Farnèse, d'où son nom, un diamant qui a été trouvé dans les mines légendaires de Golconde en Inde, qui a voyagé des Philippines à l'Argentine puis à l'Espagne pour passer ensuite de main royale en main royale. Il a figuré sur un diadème de Marie-Antoinette avant de disparaître, et oui, disparaître, en fait, il n'a jamais disparu. Il a continué à passer en secret d'héritière royaux en héritière non moins noble. Il passait de main en main dans le même écrin et le secret a été gardé jalousement depuis 3 siècles. Aujourd'hui, on le découvre enfin. En clair, c'est une pièce historique qui va être mise en vente pour la première fois et dont l'enchère a été fixée à 4 millions d'euros, mais qui devrait facilement dépasser les 5,5 millions d'euros, sinon plus. Près d'1 million d'euros le carat de diamant bleu, le prix de l'histoire en fait.
Pourquoi il est mis en vente tout d'un coup? On sait ça?
On ne sait pas. On ne sait absolument rien sur ce diamant absolument incroyable qui vient de réapparaître. Et je vous le dis, hein, vraiment, c'est la première fois qu'on le voit. On en connaissait vaguement la légende et l'histoire. On sait qu'on se le passait dans un espèce d'écrin royal comme ça, de famille en famille. En l'occurrence, de Bourbon en Farnèse, puis de
mais c'est qu'ils ont besoin d'argent ou?
Probablement, c'est probablement ça que j'ai passé.
On va en déduire.
Et en fait, il n'y avait personne pour le connaître. C'est-à-dire qu'il n'y avait que quelques membres de la famille et les joailliers pour savoir comment le monter et comment le, et qu'il existait simplement.
Bon, bah, on va y voir ça alors. Merci Anthony Bélanger.
Merci à vous.